Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 24e épisode.
C'est de l'action collective des femmes que je voudrais vous parler aujourd'hui. Agir dans l'espace public n'est pas aisé pour les femmes, vouées au privé. Elles l'ont fait pourtant et de bien des manières que je voudrais explorer. Souvent, elles prennent appui sur leur rôle traditionnel et alors tout va bien. Ainsi pour les émeutes de subsistance ou l'action charitable. Tout se complique lorsqu'elles prétendent agir comme des hommes. La frontière du politique est particulièrement résistante dans l'Athènes de Périclès, comme dans le Londres de Cromwell ou le Paris de la Révolution française. Le politique, longtemps, fut une forteresse interdite. L'émeute de subsistance, voilà ce qui convient aux femmes. Gardiennes du vivre et du couvert, ces ménagères éternelles ont raison de s'en soucier. Elles le doivent même, c'est leur mission. Elles doivent veiller aux approvisionnements, au prix des grains ou du pain. Leur action est un des ressorts de ce qu'on appelle au XVIIIe siècle l'économie morale. Celle qui accepte un juste prix des denrées, pour le grain, le pain, les pommes de terre au XIXe et toutes sortes d'autres produits, dont d'ailleurs les changements illustrent les modifications du niveau de vie. Ainsi, lors de la crise de Vichères, qui au début du XXe siècle, dans les années 1910, a touché toute l'Europe, les ménagères des Pays-Bas, de Belgique et du nord de la France revendiquent le beurre à 10 sous. Et elles protestent contre la hausse du lait et du sucre. En somme, on voit que le panier de la ménagère change de contenu. Au XVIIe, il était question de grains et de pain, et là, de beurre, de sucre, de lait. Ces émeutes de subsistance, elles sont bien documentées, il y a eu beaucoup de sources à leur égard, parce que les pouvoirs publics les redoutent. Alors, il y a des documents, les historiens comme Jean-Nicolas, Bourguina et bien d'autres les ont étudiés. Ces émeutes ont été très nombreuses, notamment du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe. Elles étaient mixtes, il y avait des hommes dans les émeutes de subsistance, bien sûr, mais le rôle des femmes y allait croissant. En quoi consistent ces émeutes de subsistance? Ce sont des attroupements du marché, de la route, du moulin, qui visent les détenteurs des denrées, les blattiers, les meuniers, les boulangers, les marchands surtout, ceux que le peuple du XVIIIe siècle appelle les accapareurs et qu'ils détestent parce que ils voient en eux des profiteurs qui les affament. En cas de pénurie ou de hausse des prix, les femmes donnent l'alerte, s'ameutent, protestent. Elles s'en prennent aux marchands, les menacent, renversent leurs étals, s'en vont sur les chemins, près des canaux pour arrêter les charrois, et elles s'emparent parfois des cargaisons. Mais de plus en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elles demandent la taxation du grain ou du pain par les autorités municipales et pourquoi pas par l'État. Et par là, les ménagères jouent un rôle politique. Ce rôle politique est éclatant lors des 5 et 6 octobre 1789, lorsque les dames de la Halle, comme on disait, s'en furent à Versailles chercher le roi, la reine et le petit Mitron pour les ramener à Paris afin qu'ils garantissent le pain. L'historien Michelet, qui réprouve habituellement l'action politique des femmes, loue les ménagères parisiennes de leur vigilance. Ces nourricières protègent leurs enfants et le peuple, qui est aussi leur enfant. Les troubles de subsistance sont plus ou moins violents. Ils virent parfois à l'émeute, ils font des morts. La troupe intervient, plus ou moins brutalement. Il y a des arrestations, des procès, des condamnations à mort. Elles touchent aussi les femmes. Pourtant, les magistrats hésitent à les frapper trop durement à cause de leurs enfants. La mère, en somme, protège la femme. De manière générale, on redoute la présence des femmes et bien plus tard, au XIXe siècle, la psychologie des foules assimile la foule aux femmes, hystériques comme elles. Zola, dans son grand roman Germinal de 1885, met en scène une manifestation de femmes de mineurs. La Maheude, la fameuse Maheude en tête, contre l'épicier Maigrat. Et les femmes émasculent Maigrat. Scène terrible, scène épique, qui n'a pas de précédent, qui n'a pas de réalité, mais qui représente l'essence même du rôle attendu ou redouté de l'action collective des femmes dans l'espace public. Alors ceci dit, avec la régulation du marché, le développement des chemins de fer, l'amélioration du ravitaillement, on voit disparaître cette forme d'intervention des femmes. Et du coup, les femmes disparaissent aussi de la rue, puisqu'elles étaient là pour les émeutes de subsistance. Au XIXe siècle, un peu partout, leur présence dans les manifestations, comme d'ailleurs sur les barricades, s'amenuise. Vous allez me dire, mais il y a les grèves. Oui, mais les grèves ne remplacent pas les émeutes de subsistance. La grève est un acte viril, lié au salariat industriel, qui n'est pas d'abord l'horizon des femmes. Leur place dans les grèves est même inférieure à leur poids dans le salariat ouvrier. Elles participent pourtant aux grèves mixtes et leur rôle comme femmes de grévistes est essentiel, par exemple dans les grèves de mineurs, qui sont très longues en général. Elles organisent des cuisines collectives, temps fort de la solidarité ouvrière. Mais elles font plus rarement grève toutes seules et les ouvriers ne les soutiennent pas toujours. Leurs grèves sont surtout défensives, liées à des questions de discipline ou d'horaire. Ces grèves sont plus festives que violentes. Elles échouent souvent. Bien entendu, les choses changent au cours du temps. Plus les femmes accèdent au salariat, plus elles participent aux grèves. Il y a une espèce de logique. Et elles sont très présentes dans les occupations d'usines, du Front populaire ou bien dans les grèves des années 1970. On les voit alors là dans les années 70-80, le rôle des femmes dans les grèves a été très très important. Il y avait eu beaucoup d'usines dans les années 1950-1970 qui avaient été construites tout autour des villes notamment pour monter toutes sortes d'appareils. Il y avait une main d'œuvre féminine très importante dont le joint français ou surtout Moulinex sont vraiment les types. Ces usines-là sont d'ailleurs aujourd'hui les plus menacées par la concurrence des fabriques asiatiques ou sinistre concurrence, œuvre d'autres femmes encore plus surexploitées. Alors lorsqu'elles ferment ces usines, les conflits sont interminables et souvent désespérés. Les grèves, on pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais je voudrais vous dire un mot du syndicalisme. Il faut remarquer au passage que le droit de se syndiquer a précédé dans de nombreux pays le droit de vote. Par exemple, en France, les femmes peuvent se syndiquer en 1884 et elles ne votent qu'en 1944. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une forme de reconnaissance individuelle des femmes. Longtemps théorique plus que réel, hein, parce que les femmes sont entrées lentement dans les syndicats. Leurs compagnons n'étaient pas très favorables à leur syndicalisation. Pourquoi ? Parce que ça représente de l'argent, une cotisation et du temps. Les femmes, pensait-on, avaient mieux à faire qu'à aller à des réunions. Et au début, leur prise de parole dans les réunions était même très contrôlée. Songez qu'à la fin du XIXe siècle, dans le nord de la France, quand une femme voulait prendre la parole dans une réunion syndicale, elle devait passer par un homme pour avoir l'autorisation. Et c'était même pire en Angleterre. En Angleterre, à l'époque du chartisme, dans les années 1930, les inns et les pubs, qui sont les lieux de réunion des syndicats, excluent les femmes. On les voit d'abord se taire, se retirer dans un coin, puis finalement, elles cessent de venir. Et les inns et les pubs deviennent des lieux entièrement masculins. Par conséquent, le syndicalisme, c'était pas si simple pour les femmes. C'est pourquoi, d'ailleurs, le syndicalisme réussissait mieux quand il correspondait à un métier féminin. Par exemple, les tabacs. Par exemple, les fleuristes plumassières. Là, il y avait que des femmes. Alors, elles se syndiquaient entre elles. Elles faisaient des mutuelles. Elles faisaient ce qu'on appelait des chambres des dames ou des syndicats. Et leurs réunions étaient purement féminines. Et puis, alors, il y a une autre tendance qui a développé le syndicalisme féminin. C'est plutôt les syndicats chrétiens. Et là, les syndicats chrétiens, ils avaient une forte culture féminine et ils étaient non mixtes, parce qu'il n'était pas question que les hommes viennent dans ces réunions. Mais il faut bien voir que c'est de là qu'est sortie, par exemple, la CFTC ou la CFDT. Une Jeannette Lahotte, une Nicole Notat, dans des syndicalismes complètement laïcisés, viennent un peu de cette tradition. Ceci étant, et en dépit de ces restrictions, il faut rappeler que le syndicalisme a été aussi un grand moyen de solidarité, de sociabilité et d'ouverture au monde pour les femmes, dans les congrès notamment. Il y a un très célèbre congrès en France, 1879, le congrès de Marseille, où on voit Hubertine Auclert qui monte à la tribune, elle se dit « esclave déléguée de 9 millions d'esclaves ». Et elle réclame l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et tout le congrès l'acclame. On l'acclame vraiment, tous les hommes qui sont là l'acclament complètement. Voilà pour le syndicalisme. J'aurais évidemment beaucoup de choses à dire là-dessus. J'aurais dire un petit mot des associations. Les associations convenaient mieux aux femmes. Alors là, il y en avait beaucoup. Des associations pieuses, charitables, philanthropiques, elles étaient légions. Il y en avait en Angleterre, regardez l'armée du salut, par exemple, c'est très intéressant l'armée du salut. On voit des femmes qui parviennent au commandement dans l'armée du salut. Il y a eu une myriade d'associations pour les malades, les pauvres, les prisonniers, les femmes étaient visiteuses de prison, pour les enfants, et il y avait une énergie des femmes qui s'engouffraient littéralement dans ces associations plutôt philanthropiques. Et on peut même dire qu'à un certain moment, le monde ouvrier devint une véritable terre d'enquête et de mission pour les femmes et qui allaient y enquêter et y faire des choses en quelque sorte de solidarité. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que l'action locale convenait mieux pour les femmes. Et cette action locale les a préparées à l'action municipale, où aujourd'hui encore, elles sont plus importantes que dans l'action politique au niveau national. Le local, c'est plus facile pour les femmes, elles sont là à côté. Alors ce qui résiste aux femmes, c'est la politique. La politique, c'est la cité interdite. Et c'est vraiment, de toutes les frontières, la frontière la plus difficile à franchir. Pourquoi ? Parce que la politique est le centre de la décision, le cœur du pouvoir. La cité grecque, dans l'Antiquité, excluait les femmes, comme elle le faisait des esclaves et des barbares. La Révolution française aussi, je l'ai rappelé la dernière fois, en 89, les femmes sont toutes déclarées citoyennes passives, exclues du droit de vote, avec une nuance toutefois, pour le moment du moins, disait Sieyès, ce qui transforme évidemment l'exclusion en inclusion possible. Mais il y a toujours l'idée que les femmes, pour devenir citoyennes, doivent faire leurs preuves, montrer qu'elles sont des individus responsables. Et en ce sens, la démocratie représente une potentialité, une promesse d'universalité, mais soumise à conditions. Pour réaliser l'entrée en politique, il fallut la revendication des femmes, le suffragisme anglais, par exemple. Et puis, il fallut aussi le rôle des commotions, le rôle des guerres. Après les guerres, en général, beaucoup de pays accordent le droit de vote aux femmes. Après la Première Guerre mondiale, ça a été le cas de nombreux pays. La France, non. La France, il faudra qu'elle attende la Seconde Guerre. Mais la Seconde Guerre a été très importante. On voulait, en 44, mettre un terme à l'exclusion des femmes et reconnaître aussi leur rôle dans la résistance. 1944, Assemblée consultative d'Alger. D'ailleurs, cette Assemblée d'Alger montre encore des réticences. Ainsi, les radicaux disaient « Mais les maris sont prisonniers. Alors, est-ce que les femmes sauront voter ? Est-ce qu'il faut leur accorder le droit de vote ?» Et on voit à quel point on avait encore des difficultés à reconnaître que les femmes étaient vraiment responsables. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette singularité française, en quelque sorte ? Alors, on a évoqué bien des raisons. La vieille loi Salique. La loi Salique, c'est une loi qui exclut, depuis le XIVe siècle, les femmes du trône. En France, la reine n'est que la femme du roi, comme l'a montré Fanny Cossandet dans son étude sur les reines de France. C'est pas du tout le cas en Angleterre. Pas du tout le cas en Russie non plus, la grande Catherine, par exemple. Et pourquoi cela ? Encore une autre raison, à côté de la loi Salique. On dit en France que les rapports de sexe ont été construits sur le mode de la courtoisie et de la galanterie. Et alors, du coup, les femmes sont hors du conflit, hors, par conséquent, de la politique. Puis enfin, troisième série de raisons, la manière dont la République a été établie en France. Le roi a été en quelque sorte sacrifié. C'est comme un sacrifice sanglant. On sacre le citoyen. Il y a là quelque chose de religieux et par conséquent de sacré et de viril. Une femme peut-elle participer à ce sacrement viril de la citoyenneté? Conclusion de cela. En France, la politique est une conquête d'hommes, un métier d'hommes, soustrait au salon, à la parole et à l'influence des femmes. Être une femme en politique, plus encore, être une femme politique, ça paraît antithétique, contraire à la féminité. D'où les blocages, les résistances. Et le fait que même après le vote de la loi sur la parité, en 2001, les femmes aujourd'hui en France ne sont toujours que 12% à l'Assemblée nationale et curieusement un petit peu plus aujourd'hui au Sénat. Très peu nombreuses, il faut le reconnaître, dans l'exécutif. L'Europe, où les expériences sont d'une très grande diversité, l'Europe du Nord est très différente, hein, l'Angleterre aussi. Il y a quand même eu une femme première ministre, Madame Thatcher, pendant longtemps en Angleterre. L'Europe devrait faire évoluer les choses. Pour les femmes, la politique, c'est encore demain.
Histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perronneau.